VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriac.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition de ce vendredi 23 octobre 2015 à la une ce soir.
Encore des violences des salafistes armés au Nigeria, plusieurs villes du nord-est du pays et de l'extrême nord du Cameroun étaient aujourd'hui des cibles de Boko Haram. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est dans deux jours. Nous avons sur place notre envoyé spécial, Tatiana Mosso.
Le candidat indépendant de l'alliance du CNC a retiré sa candidature. Il faut savoir que c'est plus ou moins une surprise. La nouvelle s'est répandue assez vite dans Abidjan. Et les premières réactions, c'est de dire finalement, ce n'est pas surprenant.
En République du Congo, nouvelle tentative de médiation avant le référendum constitutionnel de dimanche.
L'archevêque de Brazzaville a publié un appel à l'endroit de toute la classe politique congolaise, mais appelant les acteurs à aller dialoguer.
En Afrique du Sud, les étudiants contestataires obtiennent gain de cause. Jacob Zuma suspend les frais de scolarité dans les universités. Crise en Syrie, les États-Unis, la Russie et d'autres puissances annoncent un nouvel effort diplomatique.
Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Et des attaques djihadistes ont secoué plusieurs villes du nord-est du Nigeria. Aujourd'hui, un attentat s'est produit dans une mosquée de Yola, la capitale de l'État d'Adamawa, au moment de la prière. Pour l'heure, aucun bilan n'est disponible, mais les secours font d'ores et déjà état de dizaines de victimes. Cette explosion fait suite à un autre attentat dans une mosquée ce vendredi. Un kamikaze a tué 28 personnes à Maïdougouri, fief historique des islamistes de Boko Haram dans l'État de Borno. Salwa Jafari nous en dit plus.
L'attaque a été menée peu après 4 heures GMT lors de la première prière du matin par un assaillant solitaire, mais les témoins ont fait état de 2 explosions. Au moins 20 personnes ont été blessées. 2 hommes auraient été arrêtés et remis à la police après avoir célébré l'attentat. Ils se tenaient à l'écart et se congratulaient en lançant « Allahu Akbar, Dieu est grand », selon 2 témoins. Cette attaque est la 6e depuis début octobre qui frappe Maïdougouri, où Boko Haram a vu le jour en 2002 avant de déclencher une insurrection en 2009. Au moins 76 personnes ont été tuées dans des attentats dans cette ville, capitale de l'État de Borno, dans l'extrême nord-est du Nigeria, frontalier du Niger, du Tchad et du Cameroun, où Boko Haram frappe également régulièrement. Malgré la récurrence de ces attentats, l'armée nigérienne a revendiqué une série de succès contre Boko Haram. Elle dit avoir repris de vastes territoires saisis par les militants l'année dernière. Des officiers supérieurs ont même caractérisé l'augmentation des attentats suicides contre des cibles faciles, selon eux, comme un signe de désespoir du groupe. Le président Muhammadu Buhari a promis de mettre fin d'ici la fin de l'année à une insurrection qui aura duré 6 ans. Boko Haram a fauché la vie d'un peu moins de 17 000 personnes et a fait plus de 2,5 millions de déplacés.
Boko Haram s'est également emparé d'une ville au Cameroun. L'organisation djihadiste contrôle Kerawa depuis ce matin dans la région de l'extrême nord. Nous y reviendrons en seconde partie d'émission.
L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est dans 2 jours. La campagne électorale prend donc fin ce soir. Les rues d'Abidjan étaient particulièrement animées ce vendredi après-midi. Les partisans du président sortant Alassane Ouattara étaient réunis pour assister à son meeting. C'est dans ce contexte que Charles Konanbani, le candidat indépendant du CNC, retire sa candidature. Il faut dire que depuis le début de la campagne, l'ancien Premier ministre ne cesse de dénoncer des irrégularités dans l'organisation de l'élection. Un point complet dans notre magazine avec notre correspondante sur place, Tatiana Mosso.
République démocratique du Congo, après la démission de l'abbé Apollinaire Malou-Malou de la présidence de la Commission électorale nationale indépendante, les confessions religieuses ont proposé Corneille Nanga, actuel secrétaire exécutif national adjoint de la CENI, pour lui succéder. Ce dernier a été proposé par 7 des 8 confessions religieuses, car l'Église catholique n'a pas voulu cautionner ce vote. On écoute l'abbé Léonard Santédi, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui a pris part aux discussions.
C'est comme si il y a eu en amont déjà un candidat retenu par sept confessions religieuses. Dès lors, comment procéder à un vote ou à une élection parmi huit partenaires si sept ont déjà un seul candidat? Et donc c'est pour nous un peu l'histoire qui se répète, hein, la désignation de notre frère l'abbé Malumalu. Et donc pour nous, nous avions voulu qu'on échange sur ces principes de neutralité et d'indépendance pour arriver à un choix qui soit vraiment le choix des confessions religieuses qui ont échangé à toutes les confessions religieuses. Ce qui fait que l'Église catholique assume sa responsabilité devant la nation, devant l'histoire, et ne participe pas à ce qui paraît comme une parodie des désignations par les confessions religieuses, mais qui n'en est pas une.
L'abbé Léonard Santedi, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale de la RDC.
En Guinée-Bissau, l'ancien chef de l'armée, José Zamora Induta, est poursuivi pour renversement de l'ordre constitutionnel, connexion avec une organisation terroriste et assassinat. Sur place, Noah Mankali fait le point.
Face aux menaces des assaillants en main armée qui préoccupent la population surtout au niveau de la capitale Bissau, le régiment du commandement des forces armées a émis un communiqué dans lequel cette unité militaire des hommes en béret rouge a laissé à la population des contacts téléphoniques au cas où ces malfaiteurs surgissent dans leur quartier, qu'elles puissent appeler à ces numéros de téléphone mobile 699-13-47 ou 693-85-46 du régiment du commandement de la base aérienne de Bissalanka à Bissau. On rappelle qu'hier après-midi, un citoyen a été poignardé à mort en plein jour sur le trottoir de l'avenue principale des anciens combattants de la liberté nationale sans que la population présente ose défendre la victime. D'ailleurs, seul en ce mois d'octobre, les assaillants ont fait otage et ont tiré des balles réelles, tuant plusieurs personnes à courte portée tant que la justice soit faite. Récemment, dans la région de Kachéo, située au centre nord de la Guinée-Bissau, il a été volé plus de 30 têtes de bétail dont les auteurs sont toujours restés disparus. Noah Mankali, Bissau, VOA Afrique.
En Afrique du Sud, le mouvement de protestation des étudiants commence à porter des fruits. Cet après-midi, le président sud-africain Jacob Zuma a annoncé qu'il annulait l'augmentation des frais de scolarité des universités pour l'année 2016. Cette décision fait suite aux heurts entre certains étudiants et la police de Pretoria. Précision d'Ilidico.
Dans une allocution télévisée, le président Jacob Zuma a annoncé qu'il n'y aurait aucune augmentation de frais de scolarité en 2016. La mesure fait suite à des pourparlers entre le gouvernement et les leaders de la contestation. Il a aussi indiqué que les discussions se poursuivront sur des problèmes plus larges que les frais de scolarité. De nombreux problèmes ont été soulevés et devront être suivis, comme l'éducation gratuite, l'indépendance des universités et le racisme. Cette annonce va permettre de débloquer la situation dans les universités sud-africaines paralysées depuis le début du mouvement. Dans la matinée, avant l'annulation de l'augmentation des frais de scolarité, la manifestation des étudiants s'est déroulée au départ sans incident. Mais le rassemblement a dégénéré lorsque quelques étudiants, parmi les milliers sur place, ont jeté des pierres sur les policiers et mis le feu à des toilettes mobiles sur la pelouse de Union Buildings.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé un sommet sur la Syrie la semaine prochaine. C'est la principale résolution après une rencontre à Vienne, en Autriche, entre le chef de la diplomatie américaine et son homologue russe, Sergueï Lavrov. On fait le point avec Jean-Roger Billon.
La rencontre de la semaine à venir vise à intensifier les efforts pour parvenir à un règlement politique du long et sanglant conflit en Syrie, où les États-Unis et la Russie ont des positions antagoniques. Kerry et Lavrov auront essayé d'emblée de trouver un terrain d'entente entre Washington et Moscou aujourd'hui dans leur discussion sur l'avenir politique de la Syrie. Les deux hommes se sont serrés la main, sans plus, devant les caméras, avant que le secrétaire d'État américain ne vienne annoncer la réunion de la semaine prochaine aux correspondants de presse voyageant avec lui. De l'autre côté, le ministre jordanien des Affaires étrangères Nasser Judeh et le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov ont fait savoir que la Russie et la Jordanie ont convenu de coordonner leurs actions militaires en Syrie, y compris dans les campagnes aériennes. John Kerry, quant à lui, poursuit ses consultations, notamment avec des responsables jordaniens et avec le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas. La rencontre Kerry-Lavrov à Vienne a impliqué également des représentants de la Turquie et de l'Arabie Saoudite.
Des milliers de Palestiniens ont afflué ce vendredi sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, ouverte par Israël sans restriction pour la première fois depuis des semaines dans un geste d'apaisement. Mais des heurts violents ont fait plus de 80 blessés en Cisjordanie et à Gaza.
Le président américain Barack Obama a nommé ce vendredi Brett McGurk, un expert de l'Irak, nouvel émissaire pour coordonner la campagne contre le groupe État islamique.
L'ouragan le plus puissant de la saison menace la côte pacifique du Mexique. Patricia, de catégorie 5, devrait toucher terre ce soir dans le sud-ouest du pays où les autorités s'attendaient à des dégâts catastrophiques. Selon les météorologues, la tempête s'accompagne de vents de près de 325 km/h. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Quelques 400 entreprises ont été enregistrées pour participer à la 4e édition du Forum Africalia du 24 au 26 février à Ouagadougou, selon l'APA, citant la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Africalia est organisée en collaboration avec l'UMOA, la France et le Québec et bénéficie du soutien de l'OIF, l'ONUDI et la Banque mondiale. Ce forum est une opportunité pour les petites et moyennes entreprises africaines de tisser des relations d'affaires avec d'autres entreprises dans le monde. Côte d'Ivoire, le directeur général chargé des projets statistiques au ministère de l'Agriculture a annoncé la mise en place en 2016 d'une assurance agricole pour sécuriser les revenus des producteurs. Noun Koulibaly a annoncé d'autres innovations, dont la création d'une bourse des matières premières qui sera un grand marché où tous les prix, excepté ceux du café et du cacao, seront affichés dès le départ. Un projet de loi agricole est en cours pour contrer les intermédiaires malveillants dans le secteur en Côte d'Ivoire. La suppression des frais de roaming depuis un an entre le Rwanda, le Kenya et l'Ouganda a fait ses preuves. Le réseau unique montre tout le pouvoir accélérateur des technologies de l'information et de la communication dans l'intégration sous-régionale de l'Afrique de l'Est, estime le site en ligne spécialisé Financial Afrique. Depuis juin 2014, le nombre d'abonnés a augmenté de 300% et les recettes de 50%. Quant aux tarifs, ils ont baissé de 50% alors que les appels se sont accrus de 800%.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Nathalie.
L'actualité sportive avec Bagassi Kouras. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chiroubin, bonsoir à tous.
Alors le Maroc se qualifie pour le CHAN 2016 au Rwanda.
Au Rwanda, le Maroc donc a remporté une nette victoire sur la Libye 4-0. C'était hier donc en éliminatoire du CHAN 2016, décrochant ainsi son ticket pour le Rwanda et qualifiant au passage la Tunisie. La rencontre entre la Tunisie et le Maroc, les deux qualifiés donc, se jouera pour l'honneur.
Et parlant toujours du CHAN 2016, le match entre le Congo et le Cameroun est reporté au 31 octobre.
Oui, la rencontre devait avoir lieu ce dimanche, mais en raison de la tension sociopolitique au Congo, elle a été repoussée. À l'aller, les deux équipes avaient fait match nul 0-0. C'était à Yaoundé, au Cameroun.
Un résultat au mondial des moins de 17 ans.
Eh bien, c'est l'Afrique du Sud qui a raté une chance en concédant un match nul, un but partout. Hier, donc, au mondial des moins de 17 ans, face à la Corée du Sud, pourtant réduite à 10.
Un nouveau candidat pour succéder à Sepp Blatter au sommet de la FIFA.
Oui, il s'agit du Français Jérôme Champagne, ancien secrétaire général adjoint de la FIFA. Champagne, âgé de 57 ans, est le quatrième candidat déclaré disposant des 5 parrainages nécessaires après le Français Michel Platini, dont la candidature est gelée pendant sa suspension de 90 jours. Le prince jordanien Ali et l'ancien capitaine de Trinité et Tobago, David Nakib. Les candidatures seront closes chez Roumain lundi. Il va falloir se dépêcher. L'élection à la succession du Suisse Joseph Blatter aura lieu le 26 février 2016. Quand est-ce que vous comptez déposer votre candidature?
Très bientôt. Merci Bagassi Koura pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Place maintenant au dossier du jour. D'abord, Boko Haram a encore frappé Morgane Guériac.
Oui, et c'était donc au Cameroun. L'organisation djihadiste a mené une incursion à Kirawa ce matin, dans la région de l'extrême nord. Et des civils auraient été tués et des renforts militaires camerounais seraient arrivés sur place. Mais il n'était pas possible de savoir dans l'immédiat si des combats étaient engagés dans cette ville de quelques 50 000 habitants. John Lyndon a joint Gibaï Gatama, directeur de publication de l'Œil du Sahel.
À Kirawa, ce matin, il y a eu une incursion de combattants de Boko Haram qui sont entrés dans la ville quelques temps et après qui ont été repoussés par l'armée camerounaise. Mais ce n'est pas la première incursion ces 48 heures. Donc il y a une forte pression sur cette ligne de front. Et ces dernières 48 heures, on peut avoir enregistré au moins... pas moins de 5 incursions de l'affect de Boko Haram dans cette politique.
Alors, il n'y a pas longtemps de cela, et parlant de l'arrivée des soldats américains au Cameroun, vous avez titré à la une de votre journal « Gare au triomphalisme ». Est-ce que ce qui arrive aujourd'hui vous surprend ou pas?
Non, ce qui arrive aujourd'hui ne me surprend pas parce qu'il y a une forte pression de l'armée nigériane dans le Borno State et que Boko Haram ne combat pas pour faire laisser l'armée nigériane réoccuper les villes. La secte se déploie dans les villages limitrophes avec le Cameroun et multiplie les incursions. Alors, nous avons titré Gare au triomphalisme parce que, bon, vous savez, il y a le mythe de l'invincibilité de l'armée américaine. Donc, pour les populations, elles pensent que si l'armée américaine se déploie, l'affaire sera réglée dans quelques jours. Et cela peut avoir un impact sur la mobilisation des populations comme vecteur accompagnateur, si vous voulez, de l'armée sur le terrain, en pensant que ce sont elles qui fournissent les informations. Moi, j'ai entendu des gens dire, alors, à quoi ça sert de fournir encore des enseignements à l'armée si les drones américains vont pouvoir écouter tout le monde, vont pouvoir faire ce travail, donc peut-être se concentrer à autre chose. Alors que dans ce type de guerre asymétrique, le renseignement humain contribue à 80% au résultat.
C'était Gibaï Gatama, directeur de publication de l'Œil du Sahel.
Depuis hier jeudi,
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, on va parler maintenant de la campagne électorale en Côte d'Ivoire. Élection en Côte d'Ivoire, c'est jour J. Moins deux, Morgane Guériac.
Et oui, et donc les rues d'Abidjan étaient particulièrement animées, notamment en raison du meeting du président sortant Alassane Ouattara. Par ailleurs, il faut savoir que Charles Konan Mbani, le candidat indépendant du CNC, a retiré sa candidature. Je n'en dis pas plus, écoutons plutôt notre envoyé spécial sur place, Tatiana Mosso.
Effectivement, le candidat indépendant de l'Alliance du CNC a retiré sa candidature. Il l'a annoncé officiellement au cours d'une conférence de presse tout à l'heure avec quelques confrères. Il faut savoir que c'est plus ou moins une surprise. La nouvelle s'est répandue assez vite dans Abidjan. Et les premières réactions, c'est de dire finalement, ce n'est pas surprenant puisque dès le début de la campagne électorale, Charles Konan Mbani, l'ancien Premier ministre, avait déjà dénoncé plusieurs irrégularités. Et il disait déjà que cette campagne électorale était biaisée et que le vote allait forcément l'être effectivement. Et finalement, il renonce aujourd'hui à être candidat. Donc, il passe de 8 à 1 candidat. Charles Konan Mbani, qui depuis le début ne cesse de dénoncer une victoire dès le premier tour du candidat Alassane Ouattara.
La campagne est donc sur le point de prendre fin. Un seul gros meeting aujourd'hui à Abidjan, celui d'Alassane Ouattara.
Effectivement, la campagne ici à Abidjan a été plutôt calme dans le sens positif, mais aussi calme dans le sens où il n'y avait pas de grands meetings auxquels les partisans pouvaient participer. Ça change beaucoup de 2010. Toutefois, cet après-midi, c'est Alassane Ouattara, une fois de plus, et ses partisans qui vont investir les rues de la capitale avec du blanc et du orange, les couleurs du candidat Alassane Ouattara du RHDP, de l'alliance du RHDP, devraient être dans le plateau à la place de la République d'ici peu. Plusieurs, depuis le début d'après-midi, plusieurs personnes, plusieurs participants, plusieurs partisans à la fois en moto, en voiture, en bus se déplacent et affluent vers le centre-ville d'Abidjan et le meeting devrait durer à peu près 2 heures.
Alors vous venez de dire une campagne calme et cela se reflète sur le taux de participation qui inquiète.
C'est la grande question de ce scrutin présidentiel. Est-ce que les Ivoiriens iront voter massivement? Écoutez, ce que les chiffres disent pour l'instant, c'est que peu d'électeurs, finalement sur les plus de 6 millions d'électeurs, ont été retirés leur carte pour pouvoir voter dimanche. Alors effectivement, il a été autorisé de pouvoir voter avec sa carte d'identité, mais est-ce que cela va pour autant motiver ceux qui avaient déjà décidé soit de s'abstenir, soit de carrément boycotter le scrutin? C'est justement la grande réponse qu'on devrait avoir dès dimanche soir, le taux de participation. On se souvient que lors du premier tour en 2010, il avait atteint les 80%, un taux record. Alors même le parti au pouvoir aujourd'hui s'inquiète de savoir est-ce que les Ivoiriens se mobiliseront réellement. Ce sera la grande réponse à attendre des urnes dimanche et des résultats définitifs qui sont attendus vraisemblablement mardi.
Tatiana Mousseau, notre envoyée spéciale à Abidjan, Côte d'Ivoire.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Cap maintenant sur le Congo-Brazzaville. L'opposition congolaise est restée en retrait ce vendredi, tandis que l'archevêque de Brazzaville, Anatole Milandou, après les récentes violences, appelait à sauver la cohésion nationale à 2 jours du référendum qui pourrait permettre au président sortant de briguer un 3e mandat. « Nous pouvons encore sauver ce qui nous reste, la cohésion nationale », écrit Mgr Milandou dans un appel à la classe politique congolaise.
Les deux camps ont entamé des discussions séparées avec l'Église, nous dit notre correspondante Gwelan Goussou au micro d'Idrissa Seydoudia.
Depuis hier jeudi, l'archevêque de Brazzaville, Mgr Anatole Milandou, a été contacté d'après l'Église catholique par le président de la République directement pour qu'il prenne langue avec les membres de l'opposition et qu'il commence rapidement des discussions sur la crise actuelle dans le pays. Malheureusement, des incidents, en fait, deux opposants ont été empêchés de quitter leur maison et donc les discussions n'ont pas eu lieu. Mais l'Église a confirmé, l'un des porte-parole de Mgr Anatole Milandou nous a confirmé ce matin que les discussions avaient commencé, mais les partisans donc, du pouvoir et de l'opposition ne sont pas encore ensemble pour discuter. La méthodologie choisie par l'Église catholique, c'est que les membres de l'opposition sont dans un coin et ceux du pouvoir également dans un autre coin et ils mènent des discussions de façon séparée. Et ce n'est qu'après qu'une mise en commun sera faite. Et d'après donc cette source proche de l'Église catholique, cette mise en commun ne devait pas survenir avant lundi. Mais déjà, l'archevêque de Brazzaville a publié un appel à l'endroit de toute la classe politique congolaise, appelant les acteurs à aller dialoguer. Et selon ses propres termes, il dit que ne pas dialoguer maintenant là, serait cynique, serait même diabolique. Il est question aujourd'hui de trouver les solutions, une issue définitive à cette crise, dit donc Mgr Anatole Milandou, l'archevêque de Brazzaville.
Mais alors, la question que l'on peut vous poser, puisque vous parlez d'une rencontre plutôt entre les deux parties, une rencontre directe lundi, est-ce à dire que le référendum aura donc lieu comme prévu dimanche?
Moi, personnellement, je ne peux pas le confirmer, mais je sais que le gouvernement a prévu donc ce référendum pour le 25. En ce moment, le matériel électoral est en train d'être déployé, notamment dans les zones qui n'ont pas été touchées par les contestations. Beaucoup de populations donc, ont reçu les cartes d'électeurs. Mais dans les zones où il y a eu des troubles, le matériel électoral a été, une bonne partie du matériel électoral a été détruit. Et puis l'autorité administrative a été chassée également de certaines sous-préfectures dans certains départements. Ce qui fait que en 48 heures, il est vraiment difficile de dire que le scrutin sera vraiment organisé à 100% sur l'ensemble du territoire national.
Nguelan Goussou, notre correspondant à Brazzaville, il était au micro d'Idrissa Seydoudia.
Les Tanzaniens iront aux urnes ce dimanche 25 octobre pour ce triple scrutin municipal, législatif et présidentiel. L'attention sera surtout portée vers celui qui, au terme du processus, prendra la direction du pays. John Lennon, au moins une chose est certaine, Jakaya Kikwete n'est plus en lice.
En effet, l'ancien président est hors course. La Constitution lui interdit de se représenter après deux mandats. Et pour ceux qui ont suivi de près la campagne électorale en Tanzanie, cette élection devrait donc en réalité se jouer entre deux candidats sur les huit en lice. Un duel, dit-on, à Arusha.
Alors John, qui sont ces deux principaux prétendants à la succession?
Eh bien, il y a d'abord d'un côté John Magufuli, ancien ministre des Travaux publics et candidat du Chamacha Mapinduzi, le parti au pouvoir. Si à 55 ans, John Magufuli compte succéder à Jakaya Kikwete, dont il a été l'un des collaborateurs, dans le discours, il prône plutôt le changement.
Et à quel niveau?
Magufuli propose un changement qui doit commencer par l'éradication de ce fléau dévastateur qu'est la corruption. Les voleurs des deniers publics, souligne-t-il, ne sont pas que dans les autres partis. Ils sont aussi, dit-il, au Chamacha Mapinduzi. Et si John Magufuli a choisi de faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, c'est qu'en fait, non seulement il veut gagner la confiance des électeurs, mais aussi et surtout, il veut redorer l'image de la Tanzanie, dont on sait qu'elle a été émaillée ces derniers temps par de nombreux scandales financiers.
Et quel est l'autre personnage dans la course? Parce que vous avez parlé d'un duel à Arusha.
Oui, autre candidat, autre bête politique, c'est Edouard Lowassa, premier ministre de 2005 à 2008, et dont on se souvient qu'il avait dû démissionner de ses fonctions à la suite d'un scandale, tenez-vous bien.
Laissez-moi deviner, de corruption.
Un scandale de corruption, évidemment. Ancien membre du Chamacha Mapinduzi, le parti au pouvoir, Edouard Lowassa a dû jeter l'éponge en juillet dernier pour n'avoir pas été choisi comme le candidat du parti au pouvoir à cette élection présidentielle. Et pour prendre sa revanche, Edouard a pu obtenir le soutien de certains partis de l'opposition. Il a 61 ans. Et en Tanzanie, beaucoup pensent qu'il est fatigué et malade, mais le concerné s'est dit gonflé à bloc et est déterminé à se battre pour sortir son pays de la pauvreté.
Qui l'emportera? Les spéculations vont bon train, mais la seule réponse valable, évidemment, c'est celle des urnes.
Oui, c'est au peuple tanzanien qu'il reviendra le droit de choisir qui, après dimanche, sera le prochain leader de la Tanzanie. Il n'est que d'attendre.
Merci John Lennon.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, reggae music, reggaeton bien sûr, pour les amis qui adorent aussi la salsa. Et aussi nous allons continuer avec notre sujet de cette semaine. Vos points de vue dans RM Show, envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au plus 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde ce soir, Lionel Gaïma. À la console, c'était Tian Wan. Présentation, Morgane Iriac et chérubin Gaby Torsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.